Quand j'ai décidé vraiment de devenir formateur indépendant, je l'ai fait pour deux raisons. La première, un, parce que ça me passionne, si tu veux. Et deux, parce que je sentais qu'avec le digital, il y aurait des choses à faire dans la durée. Et puis, c'est surtout que il y a un certain nombre de critiques, on va dire, que j'émets à l'égard de notre système de formation aujourd'hui. Et à ma petite échelle, je voulais essayer de bouger les choses en tant que formateur.
Bienvenue dans le podcast Formation Innovation, le podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'experts de la formation. Chaque semaine, je m'efforce d'inviter une personne remarquable avec qui j'échange sur ses méthodes, ses outils et sa vision de la formation. L'objectif de ces conversations est de montrer que l'on peut former autrement et, avec un peu de chance, vous inspirer à appliquer leurs conseils dans vos formations. Si vous appréciez cet épisode, n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com. Bonjour Jean-Christophe, merci d'être présent avec moi aujourd'hui.
Écoute, bonjour Elliot, j'en suis ravi, merci pour l'invitation, puis j'en profite, bonjour aux auditeurs et auditrices qui, je le sais, sont nombreux.
Mais tu as raison, on devrait dire bonjour aux auditeurs et aux auditrices plus souvent. Écoute, merci à toi d'être présent aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer peut-être l'épisode par te présenter et me raconter ce que tu fais, s'il te plaît?
Oui, bah écoute, alors comme je le dis toujours, donc pour ceux qui me connaissent, ça ne sera pas une surprise, je suis un pur produit formation. Qu'est-ce que j'entends par là? Moi, j'ai fait mes études dans ce domaine-là. J'ai fait à l'époque ce qui s'appelait un DESS, responsable formation. Et j'ai fait en même temps un DEA en didactique professionnelle parce que j'hésitais entre la partie pro ou peut-être partir vers un doctorat. Et après avoir terminé mes études, je dis toujours dans la formation, tu as trois grands acteurs. Tu as l'entreprise au sens générique, que ce soit une entreprise privée, une administration, etc., qui va former ses collaborateurs. En face, tu as l'offre de formation, les prestataires. Et puis au milieu, spécificité française, tu as tout l'environnement institutionnel et notamment les financeurs. Et moi, j'ai eu la chance de travailler pour des services RH formation, de travailler pour des organismes de formation et de travailler pour des financeurs. Donc tout ça, ça m'a permis d'avoir une vision un peu à 360. Mais en tout cas, je n'ai jamais quitté le monde de la formation. Et puis, je pense que je vais continuer quelques années encore.
Tu as aussi fait les financeurs. Alors ça, c'est assez amusant. Et qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de tester les trois? Et pourquoi tu n'es pas juste resté formateur?
Il y a deux raisons à ça. C'était, alors, je suis construit comme ça, si tu veux. Moi, j'ai besoin d'avoir une vision d'ensemble. Voilà. Donc, quand je suis dans un système, j'ai besoin d'avoir... Mais toi, par exemple, actuellement, là, je travaille avec un client sur un projet lié à l'apprentissage. Là où tout le monde va questionner, tu vois, un petit peu le contenu de la formation, on va questionner l'équipe pédagogique. Moi, je questionne aussi beaucoup les futurs alternants. Tu vois, j'ai toujours besoin d'avoir cette vision d'ensemble. Donc, dans l'écosystème, il y a aussi les financeurs. Et puis, c'est surtout, je m'étais expatrié un peu au Canada. Et quand je suis rentré en France, il y avait une réforme de la formation, comme il y en a régulièrement. Et je voyais bien qu'il manquait une corde à mon arc. Et puis, j'ai eu l'opportunité de rentrer à l'époque dans un OPCA. Voilà. Donc, j'ai travaillé quelques années pour deux OPCA différents, donc des financeurs de la formation.
Ok, d'accord, très, très intéressant. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu? Pourquoi t'es revenu sur les formateurs au final?
Alors, je suis revenu sur formateur pour deux raisons. La première, c'est que j'ai deux fils conducteurs dans ma carrière. Le premier, c'est que partout où j'ai été salarié, j'étais formateur interne. Voilà, donc c'est-à-dire que j'ai toujours été formateur. Et puis, la deuxième raison, c'est que ça peut surprendre aujourd'hui, j'ai commencé ma carrière dans le secteur bancaire. À l'époque, on mettait en place une plateforme e-learning avec une grande société, ce qui m'avait permis de voir tout ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire la plateforme pensée par les informaticiens pour les informaticiens, la notion d'expérience utilisateur à l'époque, on entendait peu parler, et puis cette vision un peu naïve, on va déposer des ressources, les gens vont se jeter dessus et monter en compétences. Bon, ça n'a pas très bien fonctionné, mais dès le début, je me suis dit, il y a quand même quelque chose de vachement intéressant. Donc, formateur interne, ça m'a suivi tout le long, et quand je dis formateur et numérique, je sais que tu es tout jeune, voilà. Moi, je faisais du coup des choses sur CD-ROM à l'époque, tu vois, dans les entreprises où j'étais. Et pourquoi je te dis ça? Parce que du coup, quand j'ai décidé vraiment de devenir formateur indépendant, je l'ai fait pour deux raisons. La première, un, parce que ça me passionne, si tu veux. Et deux, parce que je sentais qu'avec le digital, il y aurait des choses à faire dans la durée. Et puis, c'est surtout que il y a un certain nombre de critiques, on va dire, que j'émets à l'égard de notre système de formation aujourd'hui. Et à ma petite échelle, je voulais essayer de bouger les choses en tant que formateur. Voilà. Mais je pense qu'on reviendra plus largement sur ce sujet. Et donc, c'est à la fois un métier que je voulais exercer, puis en même temps, une vision que je voulais défendre.
Ok. Alors, tu as commencé dans la banque, là où c'était les informaticiens qui décidaient de l'expérience. Aujourd'hui, ça a quand même pas mal évolué. Où est-ce qu'on se situe de ton point de vue? Est-ce qu'on est arrivé à maturité ou pas encore? Est-ce que c'est satisfaisant de ton point de vue?
C'est difficile de répondre à ta question. Je vais dire pourquoi. Parce que, au-delà des outils, ce qui est important, c'est les usages et aussi la créativité qu'on peut avoir autour de ça. Pourquoi ? Parce que je crois qu'aujourd'hui, on va être de plus en plus dans un monde interconnecté. Je te donne un exemple très concret. Moi, je travaille avec une plateforme LMS sur laquelle aujourd'hui, on l'interface avec un logiciel de SMS marketing. Donc, tu vois, ça vient de deux mondes différents. Okay. Mais grâce à ça, on met en place des systèmes de règles, ce qui fait qu'on sait qu'à un moment donné, tu as un module qui est un peu délicat. Et en fait, quand la personne termine le module, elle reçoit un petit SMS. Bon, là, tu devais être dans le dur. Donc, le fait de recevoir le SMS, tu vois, ça la rassure. Elle se dit, ah, tiens, ce que j'ai vécu, c'est normal. Donc, tout ça, c'est juste pour dire qu'il y a eu de très belles avancées, moi, je trouve, sur la partie expérience utilisateur, que ce soit en termes de design, de fonctionnalité, etc. Et puis, je pense que ça va continuer à évoluer parce qu'on est quand même de plus en plus centré sur les résultats, les usages. Et puis, aujourd'hui, on peut interconnecter des choses, ce qu'on pouvait difficilement faire auparavant, quoi.
Et est-ce qu'on peut donner le nom du LMS ou c'était un LMS interne ou pas ?
Alors, on peut le donner parce qu'en plus, quand je le présente, il peut surprendre. Parce que tu sais, dans le monde de la formation, moi, je mets deux grandes catégories. Il y a le monde des LMS. Alors, moi, j'ai utilisé Moodle, j'ai utilisé un très beau produit français qui s'appelle Rise Up. Et puis, il y a le monde, tu sais, ce qu'on appelle des infopreneurs, voilà, avec toutes ces plateformes, Podia et autres, qui ont une vision de la formation qui, pour moi, est assez restrictive parce que tu as de la vidéo plus de PDF. Voilà, je caricature à peine. Et figure-toi qu'il y a une entreprise française qui est basée, je ne vais pas te dire de bêtises, je crois, sur Montpellier, qui s'appelle Learnybox, qui vient du monde de l'infopreneur, si tu veux, puisqu'au départ, c'est une plateforme dans laquelle sont intégrés des outils de mailing, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, ils ont cette culture marketing, d'une part. Donc, du coup, ils sont sensibles à l'expérience utilisateur côté apprenant. Et en même temps, dedans, c'est une plateforme dans laquelle tu peux intégrer et répondre aux normes score, MAPI, etc. Et à ma connaissance, c'est la seule plateforme que j'ai trouvée qui est à la fois sur, j'allais dire, le LMS traditionnel et en même temps qui intègre ces enjeux un petit peu de marketing digital, etc. Aussi pour engager les apprenants d'ailleurs.
Et qui voilà, prend donc cette philosophie de cours en ligne qu'on voit effectivement des solopreneurs qui vont vendre sur, alors moi je l'ai fait, sur Udemy, mais donc il va y avoir aussi effectivement des Podia, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enfin bon, bref, on voit les Américains en tout cas utilisent beaucoup ça. C'est vrai que ça vient plus du monde marketing. Je dois vendre une formation plutôt que j'ai une formation à vendre. Et je pense que c'est cette différence qui est importante. Et c'est vrai que Learnybox est peut-être l'hybride là-dedans qui permet de dire non, je pense quand même au côté formation un peu plus et peut-être un petit peu moins à la vente, ou en tout cas qui mélange la vente et la formation. Ok. Et les apprenants, parce que je suis curieux, parce que c'est quand même la première fois que j'entends l'utilisation des LMS là des SMS pardon sur un LMS. On se trompe avec tous ces acronymes. Comment les apprenants le reçoivent ? Ils sont vraiment contents de recevoir un SMS ? Est-ce que tous acceptent d'avoir des SMS ? Ça y est, on est prêt là-dessus. Il n'y a pas de problème.
Alors, ça dépend de ta cible, si tu veux. C'est-à-dire que on y viendra, moi, par rapport aussi. Je suis cofondateur de Nomad Formation avec Isabelle, et effectivement. Et on va être quand même de plus en plus sur la cible du particulier en tant que professionnel. On y reviendra. Donc effectivement, je pense que selon la cible, c'est plus ou moins évident. Mais ça aussi, ça se prépare. Et je crois surtout, si tu veux, qu'on se met tout seul des barrières. Alors une petite anecdote, si tu veux bien. Il y a quelques années, j'ai travaillé beaucoup pour le secteur de l'aide à domicile. Et dès qu'on parlait de digitalisation, si tu veux, j'avais des services RH, formation, qui me disaient, vous savez, nous, les gens, ils ne sont pas habitués, ils n'ont pas de mail professionnel, ils n'ont pas ça. Et je me souviens d'une réunion, si tu veux, où on présentait. Et j'avais les aides à domicile, comment dire, au départ, qui étaient... Il y avait des freins, ce qui est normal, si tu veux. Et je pose juste une question, puisqu'à l'époque, c'était le réseau social dominant. Je leur dis, bon, si je vais sur Facebook, je ne trouve aucune d'entre vous. Elles me disent, bon, elles y étaient toutes. Donc, je lui dis, vous utilisez aujourd'hui des outils. Donc, la question, c'est, pourquoi vous le faites en tant que particulier ? Pourquoi au travail, vous n'en avez pas envie ? Et là, on rentre dans les vrais sujets. Donc, ce que je veux te dire, c'est que moi, je crois qu'en fait, souvent, on se met beaucoup de freins sur les publics. On peut faire beaucoup de choses. Dès lors qu'on lève ses freins et qu'on accepte d'en discuter aussi. Mais
c'est une question de confiance.
Ouais, exactement.
Et du coup, si ça ne vient pas du formateur, ça peut marcher quand même si pas. Parce que là, toi, tu vas gérer un centre de formation. Est-ce que tu penses que si tu es un administrateur, tu peux imposer quelque chose aussi facilement que si un formateur le fait passer en discutant, justement, en parlant du SMS, en parlant de tout ça ?
Alors, mais là, tu parles de la problématique qu'il y a pour les organismes. En fait, le fait d'embarquer l'ensemble de l'équipe, y compris l'équipe pédagogique. Mais il y a déjà plein de préalables, déjà partager la vision de la formation, partager la vision du métier du formateur, partager aussi la vision du rôle de l'apprenant. Donc là, pour répondre à ta question, c'est pas si simple que ça dans une organisation, parce que là, il y a encore un travail d'alignement à opérer, et puis il faut aussi accepter l'idée que tout le monde n'aura pas la même vision là-dessus. Donc soit tu as la chance de constituer une équipe qui a la même vision, et auquel cas, moi, je crois que là-dessus, on n'a pas de limite, et c'est la chance que j'ai, tu vois, moi, avec Isabelle, par exemple, aujourd'hui, on partage la même vision, les mêmes valeurs, et on se donne pas de limite là-dessus. Donc ça nous permet d'aller assez loin.
Alors, quelles sont ces valeurs et cette vision que vous avez en commun? Qu'est-ce qui fait que tu t'es associé avec Isabelle et quelle est la différence entre ce que vous proposez et ce que tu as pu voir dans le passé qui te plaisait peut-être un petit peu moins? Qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui?
Alors, mais pour que je te réponde à ça, si tu veux bien, je vais te parler déjà des constats qu'on a dressés sur notre système de formation. Alors, ils sont multiples. Bon, on dit comme ça, comme je l'ai présenté rapidement, si tu veux, on va se dire « ouais, il est dur ». Il y a plusieurs problèmes. On a un problème initial de commande. Combien de fois, si tu veux, tu te rends compte que la formation est à côté de la problématique? Voilà. Tu sais, quand j'interviens dans une entreprise, dans un service qui a des problèmes de performance, bon, ben on sait bien qu'aujourd'hui, que la performance est la combinaison de motivation, compétence et organisation du travail. C'est tellement plus facile de dire c'est un problème de compétence, on va le former, ce qui évite d'aborder les problématiques d'organisation du travail, voire de motivation. Donc, parfois, voilà, la formation est un peu le fourre-tout, si tu veux, et donc c'est pas la réponse au problème. Donc on a un problème de commande, mais ça vaut d'ailleurs aussi bien vis-à-vis des salariés que parfois sur la commande publique, et je qui est pas de malentendu sur mes propos, mais quand j'observe ce qui se pratique parfois sur des personnes qui sont très éloignées de l'emploi et qu'on se dit il faut qu'on les qualifie pour qu'elles accèdent à l'emploi, la question qui se pose c'est est-ce qu'au préalable il n'y a pas d'autres choses sur lesquelles il faut travailler? Alors c'est pris en compte, mais parfois de façon très secondaire, tu vois. C'est voilà, je veux dire, la formation pour moi est déjà trop un fourre-tout. Voilà, ça c'est un premier sujet. Il y en a un deuxième, c'est qu'on a un problème culturel, c'est que la formation qui est comme moyen en France est devenue une fin. Les gens demandent une formation. Voilà. Toi, je pourrais te donner, et non seulement ils demandent une formation, mais ils ont une vision de la formation. C'est voilà ce que je veux. Bon. Et là, il y a un changement culturel à opérer. Alors, ce qui est un peu engagé à travers la réforme de 2018, parce qu'on est passé, l'air de rien, du plan de formation au plan de développement des compétences. C'est pas juste un changement de mots, tu vois. Mais ça va prendre du temps. On a une troisième problématique, c'est qu'aujourd'hui, la recherche, toutes les études démontrent à quel point la motivation est importante, si tu veux, dans la réussite d'une formation. Combien de fois encore les gens subissent le départ en formation? Voilà. Donc moi, je rêve d'un monde où, à la limite, tu vois, je caricature, mais dans une entreprise, on affecte un budget éventuellement aux équipes, et les équipes sont libres d'aller chercher la formation qui leur semble correspondre à leurs besoins. Enfin, il y a un vrai sujet sur la motivation. Il y a un quatrième point, même si ça évolue, c'est que comme on a construit notre écosystème de formation autour du présentiel et du stage de formation, mais je reprends les propos de quelqu'un d'autre, de Mark Denry, on gère la formation comme un stock et pas comme un flux. Et ce qui est une vraie problématique, parce que là aussi, toutes les études démontrent qu'un apprentissage efficace, c'est un apprentissage qui est répété dans le temps, c'est un apprentissage qui est dilué dans le temps. Donc, d'un côté, on sait ce qu'il faut faire, mais de l'autre, en termes d'application, pour des raisons d'habitude, de contraintes d'organisation, on a un cinquième point. Parfois, c'est pas bien ce que je vais dire. On a une approche, tu sais, j'allais dire communiste de la formation, autant de la planification. C'est-à-dire que quand je vois parfois les plans de formation prévisionnels entre le moment où j'émets une demande, le moment où il y a un arbitrage et le moment où je vais éventuellement ou pas en formation, il se passe des mois et des mois. Voilà, et on sait que l'enjeu, c'est essayer de délivrer la formation juste à temps, et c'est là où le digital est magique. Allez, deux derniers petits points, si tu m'autorises. Un, et là je fais le lien, y compris avec le législateur, tu prends les critères juridiques aujourd'hui de la formation à distance. Il y a l'obligation d'évaluer les acquis. Bon. Est-ce que le vrai sujet, c'est l'évaluation des acquis? Est-ce que le vrai sujet, c'est pas accompagner le transfert au poste de travail et donc voir si les compétences sont mobilisées? Voilà, d'un côté, on se dit, il faut qu'on passe une logique de moyens, une logique de résultats, mais on pousse pas jusqu'au bout, tu vois, la démarche. Et puis enfin, un dernier point, alors celui qui va piquer, c'est que tout le monde s'accorde à dire que la formation est un investissement, mais tout le monde cherche la formation gratuite. Voilà. Alors gratuite, en réalité, elle coûte. Et sauf que ça pose une problématique, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'assiste soit de la sélection administrative, soit la sélection à la motivation. Je fais un dossier, je l'ai pas, je réessaye un an après. Mais quand est-ce qu'on va accepter de se dire qu'à un moment donné, il faut investir et peut-être parfois aussi investir sur soi. Voilà, tu vois, c'est voilà. Alors je dis ça, bon.
Il faut investir plus mais mieux, quoi. C'est ça que je comprends. Exactement. Finalement, dans tout ce que tu nous racontes.
Et il n'y a pas forcément besoin de gros budgets, on peut faire des petites choses qui sont hyper efficaces. Mais voilà, penser un peu autrement la formation et bon voilà, et puis parfois j'ai le sentiment qu'on va pas au bout des choses, tu vois. Moi j'avais Calliope, j'ai arrêté, alors d'abord parce que je n'en avais pas besoin, j'avais des clients qui me payaient sur fonds propres, mais je l'ai passé parce que comme je suis dans le milieu de la formation, je voulais me l'approprier aussi. Il y a des choses hyper intéressantes dans Calliope, je pense que pour beaucoup de gens ça a été structurant, mais on n'a pas poussé, on n'est pas descendu jusqu'à la pédagogie, tu sais. Alors je peux m'autoriser à être grossier sur ton podcast ou pas, Elliot?
Vas-y, mais alors doucement quand même. Bon. Non, vas-y.
Non, juste une petite chose. Une fois, je me souviens, j'avais une discussion avec un auditeur Calliope. Voilà, il me disait, bon, ben, avant, parfois, je rencontrais des organismes de formation qui pédagogiquement faisaient de la merde. Bon, ben, aujourd'hui, ils font de la merde certifiée. Voilà, c'est. Alors, heureusement, c'est pas vrai pour tout le monde, mais il y a des choses intéressantes, mais on descend pas suffisamment pour moi aujourd'hui dans les aspects pédagogiques. Voilà.
Ok. Et alors d'ailleurs, tu as mentionné Marc Denry, donc qui est passé dans le podcast, pour ceux qui veulent écouter un petit peu la vision de Marc aussi, n'hésitez pas à aller voir le numéro, je ne sais pas combien, mais vous le retrouverez si vous allez chercher les épisodes. Et donc, après tous ces constats, qu'est-ce que tu te dis et où est-ce que ça te mène?
Alors, où est-ce que ça mène? C'est lié à la fois à la vision, si tu veux, que j'ai de la formation, mais aussi à la voix de ce qu'on va essayer de porter avec Isabelle. Alors sur la vision de la formation, si tu veux, je vais peut-être surprendre en disant ça, mais j'ai envie de dire merci la Covid. Non, pourquoi je dis merci la Covid? Pour deux raisons principales. C'est d'abord, grâce à la Covid quand même, on a assisté depuis à une accélération quand même de la diversité des modalités de formation, voilà, où aujourd'hui la formation à distance occupe plus d'espace. Ça a surtout permis de découvrir que former, c'est un vrai métier. Voilà, quelqu'un qui faisait que du magistral en présentiel, parfois les gens râlaient mais s'en accommodaient. Bon, ben là, à distance, ils avaient le pouvoir, ils éteignaient la caméra, j'ai un problème d'accès Internet, etc. Donc, ça a permis d'aborder des vrais sujets et de se dire, former, c'est un vrai métier. Voilà, donc comment on engage les gens, comment on crée une dynamique de groupe, etc. Donc ça, encore une fois, je dis merci la Covid. Et là, je dis aussi merci à tous les outils digitaux. On peut faire des choses simples qui sont hyper efficaces. Je te donne un exemple. Moi, avant mes formations, les gens, c'est tout bête, ils reçoivent un mail avec juste un petit message audio, tu vois. Bonjour, c'est Jean-Christophe, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans 2 jours. Bon, on va se mettre à l'aise. Dans ces formations, j'ai des gens qui l'ont demandé, qui l'ont obtenu, ils sont ravis, d'autres qui attendent de voir et d'autres qui n'ont pas envie d'être là. Si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Par contre, va falloir qu'on essaie de voir pourquoi, parce qu'on va passer 2 journées ensemble. Tu dédramatises, toi, tu crées du lien, et c'est des petites choses auxquelles les gens sont hyper sensibles. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire des choses simples et efficaces. Voilà. Ce qui me permet de faire le lien avec la vision, Nomade Formation. Aujourd'hui, avec Isabelle, ce qu'on veut porter, c'est la chose suivante. C'est que finalement, les formateurs, c'est pas juste la question des professionnels de la formation. Et tu vois, on le voit aujourd'hui avec le développement de l'alternance. 1 million de contrats, bon, ben, c'est autant de maîtres d'apprentissage et tuteurs, même s'il y en a un peu moins parce que tu peux encadrer plusieurs personnes. C'est comment on accompagne toutes les personnes qui participent de la montée en compétences. Voilà. Et finalement, on considère que tous ces formateurs occasionnels sont parfois un peu oubliés. Et nous, on a envie de travailler avec ces gens-là parce que souvent, en plus, c'est des gens, on a toujours qui sont pas volontaires, mais globalement, ouais, qui font un job, qui aiment leur job et qui ont envie de transmettre. Globalement, les gens aiment faire ça. Et donc, simplement, il manque de temps, il manque de méthode, il manque de... Donc nous, notre projet, en fait, c'est on crée des petits produits pour ces gens-là pour qu'ils puissent, en y passant le moins de temps possible, on ne va pas en faire des professionnels de la formation, mais acquérir des méthodes qui vont leur permettre rapidement de former efficacement. Voilà, c'est ça notre projet premier, si tu veux. C'est s'adresser à ces gens qui sont un peu oubliés, et ils ont 2 contraintes essentielles, le manque de temps, donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur des petits produits, et puis le manque de moyens, voilà. Et puis ils n'aspirent pas tous à faire une formation certifiante, etc. Donc là, on intègre, nous, la logique des infopreneurs, tu vois. On va avoir des produits à 120 €. L'idée, c'est que ça soit accessible aussi aux particuliers.
Ça veut dire quoi pour toi, petit produit, en termes de temps à passer, à investir sur le sujet en tant qu'apprenant?
Alors, je réponds à ta question en 2 temps, je m'explique, je vais te donner un exemple très concret. Bon, on va sortir un produit là, au mois de juin qui va s'adresser, si tu veux, à tous les formateurs occasionnels qui vont intervenir ponctuellement, notamment dans l'enseignement supérieur avec le développement de l'alternance. Bon. Je t'assure que quand je discutais avec ces gens-là, il n'y a pas longtemps, j'étais avec le directeur d'une entreprise, lui voyait ça, je vais intervenir, tu vois, auprès des étudiants, c'est facile. Et puis, bon, on a rediscuté après, il m'a dit, putain, je sors, je suis crevé, je sais pas comment faire, etc. Bon. Donc ces gens-là, ce sont des gens qui, un, veulent quelque chose qui leur permette d'aller vite, et en même temps, qui veulent pas juste une recette parfois, qui veulent pouvoir aller plus loin. Pourquoi je te dis ça? Parce que nous, l'approche qu'on a de notre produit, j'ai donné un exemple très concret. À un moment donné, on va parler du rythme chronobiologique en formation. Et si tu veux, simplement, il y a une petite vidéo où on leur dit, écoutez, vous avez deux options. Soit vous voulez aller à l'essentiel, et là, on vous propose une trame, qui est la synthèse des enjeux en termes de rythme chronobiologique. Et en gros, on vous dit quand est-ce qu'il faut plutôt favoriser les travails de groupe, les travails individuels, les travaux en binôme. Quand est-ce que vous pouvez travailler sur des sujets de fond et les sujets, attention, ces sujets-là sont difficiles à telle heure parce qu'il y a des risques de conflit.
Attends. Faut que tu m'expliques un tout petit peu ce que ça veut dire. C'est quoi? J'ai une heure de formation, les 10 premières minutes, je suis censé faire ça? Ou est-ce que c'est par rapport à l'heure de la journée? Ça veut dire quoi, chronobiologique?
Alors, en fait, c'est les deux, si tu veux. Donc, ça vaut aussi bien que pour une heure que pour une journée. Je vais donner quelques exemples très concrets. Un qu'on connaît tous. On sait que la pause du midi, sur la digestion, il faut redynamiser les gens. Voilà. Donc, il y a deux grandes manières de redynamiser, on va dire ça comme ça. Remobiliser le corps ou mobiliser le cerveau, si tu veux. Donc, ça, une fois que tu as ça, on leur propose à chaque fois trois techniques, mais qui peuvent utiliser selon leur contexte. C'est-à-dire selon que je suis dans un amphi avec 100 personnes, selon que je forme en one-to-one un poste de travail, et tout, voilà. Donc, on adapte au contexte. Donc, ça, c'est un premier élément. Mais il y a un deuxième élément, par exemple. À partir de 16 heures, globalement, les gens commencent à être fatigués, un peu énervés. Et donc, les personnalités s'affirment de plus en plus. Tu vois, celui qui est bavard est encore plus bavard. Celui qui est agressif se montre un peu plus agressif. Donc, il y a des enjeux en termes de gestion du comportement. Et du coup, il y a un deuxième élément, c'est qu'il y a des sujets qu'il ne faut plus traiter à ce moment-là parce que ça peut toucher aux valeurs, par exemple. Donc, tu peux, voilà. Donc, on leur explique comment, dans leur progression pédagogique, du coup, on positionne certains sujets à certains moments de la journée plutôt qu'à d'autres. Donc, soit on leur propose, si tu veux, une recette, si je puis dire, voilà, pour ceux qui veulent aller à l'essentiel. Et pour ceux qui, comme toi, ça s'intéresse, on a le module complémentaire qui est dédié, effectivement, à la chronobiologie en formation. Donc, pour répondre à ta question, combien de temps ils y passent, je suis obligé de te dire, ça dépend de ce qu'ils ont envie de faire. Tu vois, voilà. Celui qui est, je suis contraint, il faut que je crée ma première formation pour lundi prochain, va à l'essentiel et tu pourras toujours revenir sur des sujets plus approfondis parce qu'ils t'intéressent.
C'est super intéressant et donc là je tire déjà un petit apprentissage en me disant qu'il y a les discussions difficiles, il faut peut-être que je les mette le matin et pas juste après manger ou tard le soir. Donc ça c'est bien. Non mais du coup c'est super super top. C'est quoi les autres gros sujets qui sont importants pour ces personnes-là? À part la chronobiologie, est-ce qu'il y a autre chose?
Alors, il y a un premier sujet en fait qui est en amont, si tu veux, et c'est ce que je m'efforce, toi, moi, sur les réseaux sociaux, à essayer de pousser. Alors, toi, les Américains qui travaillent beaucoup sur le marketing disent faut éduquer nos clients, mais c'est ce travail de prise de conscience, si tu veux. Alors, de façon un petit peu caricaturale, je dis qu'en France, il y a très peu de formateurs. Alors, pourquoi? Parce que en fait, un formateur, c'est un expert au sens j'ai de l'expertise dans un domaine, de l'expérience, capable de concevoir. Si j'utilise des jolis mots universitaires, c'est la didactique. Et d'animer, c'est la pédagogie. Or, certains me diraient non, pédagogie, c'est pour les enfants. Voilà, mais en tout cas, tu as compris l'animation. Pourquoi je dis ça? La plupart des formateurs sont des animateurs, en fait. C'est des gens qui ont de l'expérience, de l'expertise et qui animent. Sauf que, à partir du moment où tu veux rentrer non plus dans une logique de stock, mais de flux, que tu es plus orienté apprentissage que contenu, etc., tu es obligé d'apprendre la conception. Et donc, le premier enjeu, si tu veux, c'est leur faire comprendre ce qu'est un formateur. Et une fois que tu l'as fait, il y a un deuxième travail, parce que souvent, les gens, ce qu'ils veulent d'abord, c'est des outils pour animer. Et je leur dis, non, l'essentiel, c'est d'abord apprendre à concevoir, parce qu'après, les outils, ça va aller vite. Voilà. Et donc, il y a ce travail, si tu veux, ce moment où il faut aller un petit peu à l'encontre de leurs demandes. Donc, il faut sensibiliser, Bon, voilà, ça se fait. Et une fois que tu as passé ça, ben après, j'allais dire, c'est sans fin parce que ben, tu vas travailler sur la question des objectifs, tu vas travailler sur le choix de la progression pédagogique, tu vas travailler sur justement la chronobiologie, tu vas travailler sur la communication, sur les comportements difficiles. Enfin, moi, je suis dans la formation depuis 25 ans, puis ça me passionne tellement. Plus j'apprends, plus j'ai conscience que j'ai à apprendre. Tu vois, voilà.
On peut toujours s'améliorer, c'est sûr. Et donc pour toi, la structure, c'est vraiment l'élément fondamental qui est important pour avoir un bon cours. C'est ça que je comprends. Et en même temps, ce qui est assez logique, hein, quand on y pense, d'abord, il faut le squelette, il faut les grands titres. Ouais. Et puis après, on complémente avec ce qu'il y a dedans plutôt que de partir du spécifique. Ce qui est peut-être le malheur finalement de l'expert qui connaît trop bien son sujet. Je pense qu'on a tous eu ce prof qui va tout de suite tout droit dans le spécifique et on comprend rien à la structure. Et donc, une fois que tu as eu la structure, une fois que tu as le contenu, j'aimerais bien quand même qu'on parle un tout petit peu des modalités, des outils. Tu as dit un truc super intéressant tout à l'heure, très brièvement, mais qui pour moi est une pépite. C'est ce petit message audio que tu envoies avant, oui. Avant le cours. Qu'est-ce qui fait que tu envoies un message audio et pas juste un email? Et est-ce que ce message audio d'ailleurs est personnalisé ou est-ce que c'est un message standard que tu as enregistré une fois, que tu envoies à chaque fois de la même manière? On peut se le dire entre nous, je veux dire, c'est pas grave. Mais est-ce que c'est ça ou pas?
Et en plus, je le dis aux gens pour tout te dire une fois qu'ils sont en formation. Quand je dis que moi je veux amener des solutions là avec Isabelle parce que les gens manquent de temps, ça vaut pour nous-mêmes. Voilà. Donc si tu veux, toutes ces petits trucs comme ça, ils sont faits de façon standardisée, de façon à pouvoir les réexploiter. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, j'ai le message clé pour toutes les formations qui font deux jours. Voilà. Et je donne jamais du coup l'intitulé de la formation. Voilà. Bonjour, j'aurai le plaisir de vous accueillir pendant deux jours. Ça vaut pour toutes les formations qui font deux jours. Et en fait, je me présente rapidement. Et toujours, mes messages sont toujours construits de la même façon. Qui je suis? Pourquoi vous êtes là? En gros, vous avez le droit aussi de pas être là, mais on est condamné à passer du temps ensemble et on va tout mettre pour que ça soit un moment agréable et utile, tu vois. Et puis le troisième élément, c'est comment ça va se passer? Pourquoi? Parce que parfois, les gens ont la représentation. Ah, je vais aller en formation. Encore un donneur de leçons qui va m'expliquer comment je dois faire mon travail, etc. Et donc, le rôle qu'ils vont avoir à jouer, etc. Donc ça, c'est un peu ma structure type, si tu veux, mais qui correspond à ma vision. Et voilà, donc j'ai des messages prêts à l'emploi pour répondre à ta question.
Ouais, c'est super. Non, mais c'est hyper intéressant parce que ça, c'est des choses qu'on voit en marketing, les messages evergreen qui restent toujours vrais finalement. Alors evergreen, toujours vert, mais bon, qui sont toujours au vert, on va dire, qui sont toujours réutilisables. Et je pense que ça, c'est intéressant parce que au-delà de gagner du temps, ça permet aussi de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le cours, in fine, et pas ce petit message qui est indispensable. Mais qui n'est pas l'essentiel sur la raison pour laquelle on vient. Donc, je pense que ça, c'est top. Et l'audio, je pense que ce choix est quand même pas au hasard. J'imagine que c'est parce que c'est un peu plus humain que du texte. Est-ce que c'est quelque chose que tu réutilises par ailleurs? Est-ce que tu mets des vidéos? Est-ce que tu gamifies aussi un peu l'expérience parfois? Ou est-ce que tu, en général...
Oui, mais il y a l'audio d'une part. Je prends en compte aussi, tu vois, si c'est une demande d'entreprise, la culture, voilà. Donc, quand c'est une entreprise où il y a la culture du mail et de l'écrit, ça va être un mail. Mais dedans, tu vois, il va y avoir un petit gif, tu vois, un peu, par exemple, avec la pendule qui tourne et puis clac clac, il reste 24 heures, on se retrouve à 9 heures autour d'un café, un thé ou un Red Bull en fonction de vos besoins. En fait, voilà, essayer d'amener une chose, tu vois, pour que les gens. Voilà, on va en formation, ça va, on vient pas pour une opération de chirurgie, on va, voilà. Mais voilà, donc ça peut être du texte, tu vois, ponctuellement. Il m'arrive aussi de faire de la vidéo, mais alors la vidéo, pour le coup, c'est juste, je prends le téléphone, face caméra, de façon très naturelle et intuitive, tu vois ce que je veux dire. Et alors, quand est-ce que j'utilise la vidéo? Je l'utilise, en fait, notamment pour des clients. Alors, il y a un outil, j'en ai déjà entendu parler chez toi, parce qu'il est très connu, qui s'appelle Padlet, voilà, qui sert un petit peu tout le processus, dépose tout, et les gens reçoivent un accès Padlet, en fait, avant la formation, mais où ils ont accès à ma vidéo. Ils ont accès au programme et je leur demande déjà, ben, tu vois, de 1 à 10, où est-ce qu'ils mettent le curseur. 1, j'ai pas du tout envie d'être là, Jean-Christophe, 10, c'était mon cadeau avant Noël. Voilà, en leur expliquant qu'il n'y a aucun jugement, c'est pour faire une photographie. Parce que, bien évidemment, j'anime différemment, si tu veux, quand 80% des gens m'ont dit j'ai hyper envie d'être là, que quand 80% me dit j'ai rien demandé. Donc ça permet de dédramatiser, tu vois. Donc, je les questionne sur la motivation. Et puis, ben, voilà, quels sont les points que vous avez envie de traiter? Quelles sont les questions pour lesquelles vous voulez de réponse? Quelles sont les problématiques que vous rencontrez si vous acceptez d'en parler? Voilà, ça permet de créer du lien en amont, si tu veux. Et l'idée, c'est que le Padlet sert aussi en aval après. Et là, j'ai eu le cas il y a pas très longtemps. J'ai fait une formation pour des assistants et assistantes de formation. Derrière, elles avaient un travail à faire dans leur entreprise. Eh bien, tenez-moi au courant. Donc, elles viennent dire ce qui s'est passé, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, etc. Voilà, donc ce qui est cette vision flux quoi, que je défends.
Tu m'as l'air bien équipé entre LearningBox, les SMS, Padlet. Je vais te poser la question maintenant, c'est quoi ta suite d'outils que tu utilises? Est-ce qu'il y en a d'autres là dont il faut qu'on parle?
Alors, plus ça va, moins j'en utilise. Voilà. Parce que moi j'ai un problème, je suis curieux, j'adore tester si tu veux. Et alors, heureusement pour moi, j'allais dire, pendant longtemps, t'avais pas un panel d'outils. Voilà, donc j'ai travaillé avec les outils classiques, la suite Storyline, enfin Articulate, enfin voilà, j'ai travaillé eSpring, etc. Voilà, j'ai travaillé avec beaucoup d'outils, si tu veux, et puis moi je suis curieux par nature, donc faut que je me freine. Voilà, bon, et avec l'arrivée de l'IA, t'en as tellement que t'es obligé de te freiner. Bon, non, je te dis ça parce que du coup l'enjeu, et notamment en travaillant avec Isabelle, c'était de se dire, ok, c'est quoi nos outils clés, nos outils fondamentaux. Donc aujourd'hui en fait on travaille beaucoup, si tu veux, quand on développe là nos formations en ligne avec Geniali, comme beaucoup, si tu veux, voilà, aujourd'hui qui est un outil qui est voilà. Après, sur la partie vidéo et vidéo en partie interactive, on travaille avec quelque chose qui s'appelle Camtasia, voilà, où tu peux faire des choses vachement chouettes. Et puis après, j'utilise des petits outils type Learning Apps qui sont vieux, mais tu peux faire des petites activités au milieu très chouettes, très rapides à mettre en place. Bon, voilà, 3-4 outils. Et puis après, ben, actuellement, ben, on teste beaucoup d'outils d'IA, comme tout le monde. Mais on essaie de se limiter parce que s'il y a trop d'outils, tu peux perdre les gens aussi à un moment donné. Et puis pour moi, le sujet, alors je vais t'embêter, Elliot, n'est pas tant la question des outils, mais des usages. Voilà.
Voilà, on est tout à fait d'accord avec ça.
Ouais, mais je le sais. Mais ouais, il y a les outils, tu peux avoir plein d'usages différents, et puis on peut s'amuser. Tu vois, moi j'avais fait une vidéo, je me souviens, c'était pour une réforme. Alors je me filmais sur écran vert. Alors, moi j'ai la tenue, tu sais, comme au cinéma et tout. Et puis l'intro, c'était parce que les indépendants, ils étaient effrayés de la réforme, ils disaient on va perdre notre job. Voilà, et puis tu vois, je m'étais filmé en deux fois, et donc j'étais filmé, je tenais ma tête dans une main, tu vois, c'était la formation, on perd la main, tu sais que tu les captes d'emblée, quoi, voilà. Donc j'aime bien, moi, regarder, tu vois, des trucs de magie. Enfin, je me nourris de tout, et je me dis, ça peut nous apporter beaucoup en tant que formateur, parce que finalement, en tant que formateur, regarde, on utilise des mots du cinéma, scénariste. Donc, voilà, je veux dire, on n'est pas, quand on dit les formateurs sont pas là pour faire le show, oui, je suis d'accord, faut pas qu'ils prennent trop de place, mais en même temps, on peut se nourrir.
J'ai l'impression quand même que, ouais, effectivement, il faut captiver quand même à un moment, ouais, d'une manière ou d'une autre, et c'est vrai que tu l'as dit, hein, tout à l'heure, les formateurs, finalement, doivent être aussi animateurs, et c'est important, et je pense que c'est un point parfois qu'on a tendance à oublier, ou en tout cas, parce que c'est fatigant aussi de faire tout ça. Hein,
oui.
De se le dire, hein, de créer toutes ces vidéos, de faire les audios et machin, donc on peut vite abandonner. Donc je pense que c'est bien de se rattacher à ce qu'on se disait plus tôt, hein, créer des contenus une fois, les faire, oui, intelligemment pour ne pas avoir à les refaire à chaque fois et à s'essouffler sur chaque formation, parce que sinon on le fait plus,
oui,
et la qualité baisse. Donc au final, il vaut peut-être mieux quelque chose de standardisé bien que quelque, oui, chose de pas standardisé.
Eh bien, qu'on arrête. Regarde, tu vois, si t'as dans tes auditeurs, auditrices, des gens qui débutent, une petite astuce que je partage. Avec Isabelle, ce qu'on fait, si tu veux, que dès qu'on fait du e-learning, on descend très très bas dans les grains. Et en fait, en se donnant une règle essentielle, si tu veux, c'est que sur le contenu, est-ce qu'on a une information qui est stable ou qui est instable? Et dès lors que t'en as deux qui sont réunis dans le même, on divise. Pourquoi je dis ça? Parce que le jour où il y a une évolution, ça t'évite d'avoir tout à refaire dans tes briques. Tu vas changer que ce qui est instable. Et des fois, y compris, c'est juste sur l'intitulé. Moi, quand j'avais fait des modules learning, tu vois, sur les dispositifs de formation, parfois, tu as un dispositif qui va changer de nom. Quand il y a eu la réforme de 2018, dans le projet de loi, si tu veux, il y avait le CPF et le CPF de transition, ce qui a amené une confusion. Et donc, après, c'est devenu projet de transition professionnelle. Donc, tu as des gens qui avaient fait des choses, qui refaisaient, alors que le contenu, si tu veux, le dispositif lui-même ne changeait pas, c'était juste le nom. Et donc, tu vois, moi, par exemple, et du coup, les noms de dispositifs, c'était juste une petite intro audio. Bon, maintenant, on va parler de ça. Ce qui fait que, du coup, ben, j'ai juste à changer un audio, ce qui me prend 30 secondes, et pas à reprendre, voilà. Donc, on descend. C'est beaucoup plus de travail de conception. Par contre, ça te permet de garder beaucoup plus longtemps tes contenus et de les mettre à jour, quoi.
Jean-Christophe.
Ouais.
Quand est-ce que tu lances Nomad Formation, alors?
Au mois de juin.
Au mois de juin, ok.
Ouais.
Bon, l'épisode sortira juste avant, même un petit peu avant, je pense. Mais donc, ouais, n'hésitez pas à aller voir le site. Donc, c'est nomadformation.fr, nomad, N-O-A-N-O-M-A-D, sans E, formation.fr. Pourquoi tu l'as appelé Nomad? On en a parlé un tout petit peu avant de démarrer le podcast. Moi, je suis curieux.
Oui, alors Nomad, pardon, c'est pas bien, je te corrige, il y a un E, Nomad.
Il y a un E,
assume. Ouais, il y a un E, et le E est important. Non, pourquoi Nomad? Pour deux raisons. La première, de manière très égoïste. Voilà, d'abord Isabelle et moi. Mais on est comme tout le monde. On aspire à un certain nombre de choses dans la vie. Voilà. Et puis, on aime bien pouvoir travailler où on veut, quand on veut. Donc, nous avons cet esprit nomade. Ça concerne nous deux. La deuxième chose, c'est que de toute façon, la formation, je pense qu'il faudra qu'elle soit de plus en plus délivrée au bon moment. Et donc, où que je sois, tu vois, c'était, je dis n'importe quoi, je suis commercial et puis là, je suis en déplacement, je suis à l'hôtel, j'ai peut-être besoin de reprendre un truc au moment où je suis en déplacement et pas quand je suis dans l'entreprise. Donc, c'est pour des raisons, on va dire, les barrières géographiques, les barrières temporelles. Et puis, derrière le terme nomade, il y a une autre raison, si tu veux, c'est que si on revient à ce qu'étaient les nomades, il y a la tribu quelque part. Et je trouve que les formateurs, toi, c'est un peu comme les managers, comme les dirigeants d'entreprise d'ailleurs, trop souvent ce sont des gens qui sont isolés, quoi. Ils sont isolés. Et je trouve ça toujours terrible, si tu veux, quand je vois un formateur débutant qui arrive et qui repasse par tous les problèmes par lesquels on est passé. Mais je fais le lien avec l'éducation nationale. Moi, j'ai des copains, quand ils sont devenus jeunes profs, tu te dis, pourquoi faut-il qu'ils recommencent le travail par lequel sont passés leurs prédécesseurs en termes de conception? Et donc, ce à quoi on aspire avec Isabelle, c'est non seulement, on vise trois choses. Amener la formation au bon moment, avec une promesse gain de temps. Une formation contextualisée, c'est-à-dire le vrai sujet, c'est est-ce que tu formes en one-to-one, est-ce que tu formes des alternants, est-ce que, voilà. Et le troisième point, c'est de se dire, la formation, c'est le démarrage. Voilà. Et derrière, tu vas intégrer, on l'espère, un groupe qui deviendra peut-être une communauté, une tribu, dans lequel on va prendre des moments pour s'entraîner, travailler sur des sujets. Et l'idée, c'est que librement, les gens puissent venir travailler sur les sujets qui les intéressent en fonction de ce qu'ils aiment, en fonction de leurs problèmes. Voilà, c'est ce à quoi on aspire dans l'absolu, d'où le terme nomade.
Super. Écoute, merci pour cette explication. Et là-dessus, ce que je te propose, c'est de passer donc aux questions de la fin, si ça te va bien. Ouais. On va commencer avec la première. Donc, la formation dans 10 ans, pour toi, c'est quoi?
Alors, un truc hyper fragmenté. Non, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, d'abord, les marchés étaient déjà segmentés, tu sais, entre ceux qui forment les demandeurs d'emploi, ceux qui... Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a des sous-segments qui se mettent en place. Un exemple, tu vois, sur l'alternance, tu as ceux qui forment des alternants, mais dedans, tu as ceux qui forment des alternants 100% à distance. Donc, je pense qu'on va avoir un marché de plus en plus segmenté. La deuxième chose, des pratiques, du coup, segmentées entre ceux qui font que du présentiel, ceux qui font de l'hybride, voire ceux qui sortent du système, si tu veux, en proposant des choses qui répondent pas aux critères juridiques de l'action de formation. La troisième chose, fragmentation au niveau de la vision aussi, avec des gens qui seront dans une logique compétence et d'autres une logique formation encore, donc tu as des mondes qui vont cohabiter. Mais sur le plan culturel aussi, ceux qui attendent la formation et le financement, sinon je ne fais pas, et ceux qui vont investir. Et ça vaut d'ailleurs aussi bien sur la partie B2B que B2C pour le coup. Et d'ailleurs, là, le sujet du restant à charge CPF, on voit qu'il soulève beaucoup de débats. Alors la grosse note positive, c'est que je crois que l'arrivée de l'IA, là où bien évidemment elle interroge, je vois qu'elle génère beaucoup d'inquiétudes. Je trouve qu'inévitablement, elle va poser la question des relations sociales et donc de l'accompagnement. Donc, je pense que le digital va nous permettre de gagner beaucoup de temps au bon moment et nous amener au vrai sujet derrière, comment on se rassemble et on s'entraide. Donc, du coup, moi, je suis optimiste, en fait. Bon, je suis optimiste par nature. Par contre, voilà, ce que je crains, effectivement, c'est qu'il y ait une fracture entre ceux qui investissent et ceux qui investissent pas. Je vais terminer par un exemple. Tu vois, j'ai mon aîné qui a un très beau prénom. Il s'appelle Elliot. Il est en première année d'alternance dans l'enseignement supérieur. Et tu vois, à côté de ça, il a déjà acheté par lui-même 2 formations à distance. Et je vois bien que quand il discute avec les autres alternants, tu vois, il y a 2 mondes. Voilà, celui qui se dit, mais attends, j'attends pas, je vais investir sur moi, etc. C'est pas un jugement, hein. C'est un constat que je dresse. Et je crains, si tu veux, que ce fossé soit de plus en plus élargi. Et puis, dernière chose, je vais conclure là-dessus, c'est que finalement, à travers ce nomadisme, comme on a besoin de se rassembler, il y aura de plus en plus, je pense, ces communautés, ces territoires, qu'ils soient physiques ou numériques. Mais paradoxalement, je pense que le numérique va engendrer effectivement la nécessité de se rassembler. Donc, je trouve ça chouette. Voilà.
Est-ce qu'il y a une personne ou un média que tu suis dans l'univers de la formation?
Oui, ben à l'heure des réseaux sociaux, moi, je suis un blog. On en a parlé tout à l'heure, c'est Marc Denry. Enfin, je suis le blog de ses campus. Alors, il n'est pas le seul. Parce qu'il est cofondateur, mais je suis beaucoup d'abord parce que il a quelques dizaines d'années d'expérience quand même, Marc. Et j'ai toujours aimé parce qu'il s'est intéressé à la fois dans la formation côté organisation de formation entreprise et le fait de, voilà, d'avoir une vision élargie. Je trouve qu'il a des analyses très fines. J'aime la manière dont il écrit. Donc voilà, je consulte et pour le contenu, c'est toujours une leçon sur la manière dont il écrit. Tu vois, j'essaie d'apprendre à distance, on va dire. Voilà. Donc Marc Denry.
Il y a des points de vue assez tranchés. Ouais, je suis d'accord, c'est très intéressant souvent d'aller lire le blog. Donc ouais. que vous encouragez à le faire effectivement. Est-ce qu'il y a un livre sur ta table de chevet?
Alors livre, je vais essayer d'aller très vite parce que c'est la question dure pour moi. Je suis un psychopathe de la lecture. Non, quand je dis ça, moi, ça occupe une place importante. Alors, d'autant plus que ma femme est écrivain. Quand je dis ça occupe une place importante, pour tout te dire, tu vois, là, j'en ai un peu derrière, j'en ai à la maison, j'ai à peu près 400 livres pro. Tu vois, pour voilà, moi, tu me lâches dans une librairie, je fais le bonheur des libraires parce que je dépense beaucoup. Mais que ce soit des livres physiques, numériques, et donc j'ai toujours moi plusieurs lectures en même temps. Je ne sais pas lire qu'un livre à la fois. Donc rapidement, en ce moment, je lis un roman là qui s'appelle En secret de Mary Higgins Clark parce que ce qui m'intéresse, c'est comment elle travaille sa narration. C'est-à-dire, j'ai le plaisir de le lire et en même temps, je suis aussi dans l'analyse. Un deuxième, je lis un livre autobiographique d'un petit auteur qui s'appelle Stephen King, voilà, qui s'appelle donc Écriture, Mémoire de métier.
Ah, qui est excellent, j'ai adoré ce livre. Très, très bien.
Voilà, je le relis pour tout te dire, parce que j'aime beaucoup l'idée qu'à travers ça, il mélange son métier et sa vie, parce qu'en France, tu vois, on parle toujours, il faut séparer le travail et la vie personnelle. Je trouve que c'est une erreur fondamentale. On vient avec qui on est, avec ce qu'on a vécu au travail, et inversement. Donc, il y a les deux. Et puis, j'aime bien cette idée sur comment il parle de ces rituels qui favorisent la créativité, etc. Parce qu'en France, on a une vision du créatif qui est l'artiste, tu vois, qui est désorganisé.
Qui est romantisé, bien sûr.
Voilà. Donc, voilà, il y a ça. On parlait de communauté. Là, je suis en train de lire, là, sur la Kindle, Le pouvoir des communautés de Noémie Kempf. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu retrouves tous les piliers. Et j'aime beaucoup, elle aborde aussi la manière dont les marques s'en emparent, si tu veux. Et donc aussi le rôle des marques dans notre société de consommation. Donc c'est assez intéressant. Et je lis une chose là, je viens juste d'entamer une thèse, alors là qui me plaît beaucoup, sur les soft skills. Pourquoi ça me plaît? Parce qu'en France, je trouve qu'on a une problématique, c'est qu'on a l'impression des fois qu'en utilisant les termes anglais, on a réglé notre problème. Voilà, tu vois, avant on disait savoir, savoir-faire, savoir-être, ça allait pas. Alors maintenant, on est content, on dit hard, soft, alors il y en a plein d'autres, il y a MAD, etc. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle pose la réflexion d'un cadre commun, si tu veux, c'est quoi les soft skills. Et surtout, elle amène le sujet sur comment on les évalue. Et le vrai sujet de fond, une fois qu'on évalue, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que si c'est pour constater que certaines personnes n'ont pas les soft skills, mais qu'on n'est pas outillé pour les accompagner, bon, ça, finalement, quelle utilité, que ce soit pour l'entreprise comme pour la personne, tu vois. Donc voilà, ça c'est mon actualité. Et puis un petit dernier, j'arrête, je suis en train de lire un livre aussi sur le nudge au service des apprentissages. Alors, j'ai plus l'auteur. Voilà. Donc là, c'est vraiment le résultat. Ça prend un petit peu l'état de la recherche en matière de sciences comportementales et comment on peut amener des petits coups de pouce pour faciliter les apprentissages.
Bon, c'est bon. On a toute la bibliothèque là. On a un niveau.
Je suis désolé. Un livre, je suis incapable.
Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Ok, super. Bon, alors on en a déjà parlé un petit peu plus tôt, mais est-ce que s'il y avait un outil que tu aimerais mettre en avant aujourd'hui, ce serait lequel?
Mais écoute, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, toi, j'allais dire Learning Apps. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est un outil qui date un petit peu. Pourquoi je te parle Learning Apps? Alors, pour ceux qui connaissent pas, ça permet de générer très rapidement des petites activités interactives de type QCM, mots croisés, classement par pair, etc., etc. Alors, quel est l'intérêt de Learning Apps? Il y en a plusieurs. Très vite, d'abord, je trouve qu'il est simple à prendre en main. C'est-à-dire que pour des gens qui veulent découvrir le digital pour commencer à l'intégrer, tu vois, dans le présentiel, il est simple à prendre en main. Donc, c'est une première bonne raison. La deuxième bonne raison, c'est qu'une fois que t'as des modèles, une fois que tu génères ton activité, tu peux générer soit un lien web à partager, tu peux générer un QR code, tu peux générer un paquet SCORM, si tu veux l'intégrer, tu vois, sur un LMS, voire un lien iframe, si tu veux l'intégrer sur ton site internet. Donc, très simplement, en plus, en termes d'usage, tu peux en faire beaucoup de choses. Et l'autre intérêt qu'il y a, c'est que du coup, il peut être aussi bien utilisé par des débutants que des personnes expérimentées. Moi, tu vois, sur les produits learning qu'on fait avec Isabelle, de temps en temps, on en met au milieu pour recapter l'attention, amener un petit peu de jeu très, très rapidement. Et c'est surtout que je le fais de plus en plus utiliser par les apprenants. Tu vois, j'intervenais dans un master RH. Et régulièrement, mais quand j'en avais, tu vois, qui étaient un peu plus en difficulté sur un sujet, je me mettais en soutien. Et pendant ce temps-là, les autres, je leur demandais de créer des évaluations. Donc, s'il y a une façon de prendre conscience de leurs apprentissages, moi, de les évaluer et ils créent des jeux. Et après, ils se challengent entre eux, etc. Donc, voilà, je trouve que c'est un outil pour des gens qui n'utilisent pas encore le digital ou déjà, quand on veut démarrer, on peut s'amuser, on peut aller assez loin.
Super, top, bonne voilà. Recommandation.
Voilà. Et c'est gratuit.
Oui, et c'est gratuit, bah, encore mieux. Dis-moi Jean-Christophe, où est-ce qu'on peut te trouver plutôt digitalement?
Alors digitalement aujourd'hui tu peux me trouver uniquement sur LinkedIn, voilà, et puis après au mois de juin on a tout qui va arriver avec Isabelle, voilà.
Sur LinkedIn tu fais des posts sympathiques d'ailleurs, donc n'hésitez pas à suivre Jean-Christophe sur LinkedIn pour. Alors c'était, j'ai vu notamment il y a quelques mois les petits posts là que tu mettais en highlight sur ton profil qui sont intéressants sur les pour, les contre de la formation, voilà, ce qui se fait bien, pas bien, il y avait oui. Des choses comme ça, donc c'est chouette, donc effectivement ça peut être sympa. Tu allais rajouter quelque chose?
Non, écoute, j'allais dire si, merci.
écoute, merci à toi. Dernière question, qui est le dernier mot de la fin. Donc, voilà, la place est tienne. Que souhaites-tu nous raconter pour clôturer ce podcast?
T'es en train de nous montrer que le numérique permet la rencontre. Et t'es en train de nous montrer que le numérique permet l'accessibilité. Je dis ça parce que quand on voit qu'il y a des freins aujourd'hui parfois au numérique, moi, je trouve que c'est. je trouve qu'on vit une époque formidable, quoi. C'est-à-dire, ça nous permet des choses quand même incroyables. Moi qui ai commencé ma carrière il y a 25 ans dans la formation, enfin, voilà, je veux dire, je dis ça parce que du coup, je trouve que c'est génial et pour les apprenants et pour les formateurs qui peuvent s'éclater. Donc voilà, le mot de la fin, c'est ça. Et ben, tu vois, du coup, j'ai le plaisir de te rencontrer à distance. On parlait de nomadisme tout à l'heure. Et donc, j'en suis ravi, Elliot.
Eh bien, écoute, c'est moi qui en suis ravi. Plaisir partagé. Et sur ces belles paroles, eh bien, je te souhaite une très bonne journée. Et puis, à la prochaine.
À toi aussi, à la prochaine.
Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcast. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation.